Parce que justement, on a l'impression que Zep peut parler de tout avec une vraie tendresse, une vraie humanité, puis une vraie vérité.
Et une vraie simplicité, absolument. C'est un homme très sincère dans son travail et dans le regard qu'il porte sur l'être humain. Il a beaucoup de bienveillance et puis il le regarde avec beaucoup de douceur.
Et puis alors, il le regarde avec beaucoup de douceur, mais aussi, bien sûr, avec un esprit critique, une grande intelligence. Là aussi, on découvre ça, bien sûr, quand on sait lire Titeuf entre les lignes, mais aussi quand on lit l'autre univers de Zep, les autres univers de Zep.
Oui, Titeuf, c'est pas uniquement une littérature pour les enfants, bien au contraire, moi, c'est multigénérationnel. C'est vraiment quelque chose qui raconte beaucoup de choses sur la vie, sur l'existence, sur la faille, sur la solitude de l'enfance. Et puis tout le reste de son œuvre à Philippe, effectivement, c'est bienveillant, mais c'est jamais non plus niais. C'est même très critique et ça peut tout d'un être vraiment des coups de gueule contre quelque chose qui le touche profondément.
C'est quoi le premier souvenir de Zep pour vous? Est-ce que c'est Titeuf? Ou vous qui êtes un passionné de BD, il y avait peut-être d'autres choses. Ici, c'est Titeuf. C'était quoi le premier souvenir de Titeuf?
Le premier souvenir de Zep, pour moi, c'est de l'avoir rencontré à Paléo. Mais ça, c'était après avoir découvert son œuvre. Je travaillais pour Paléo, je l'avais rencontré. Il m'avait beaucoup impressionné. J'étais ravi de le rencontrer. C'est un homme extrêmement solaire, très particulier. Hein. Je veux dire, quand on le rencontre, c'est quelque chose de très fort qui se passe. Et puis en termes de lecture, effectivement, le premier Titeuf m'avait beaucoup marqué parce que je me suis dit, c'est une bombe en fait. C'était transgressif, c'était quelque chose qui libérait l'enfance, qui la racontait avec vraiment sincérité et puis clairvoyance. Donc ça m'a beaucoup touché. Mais avant cela, mon premier souvenir de Zep, eh bien, c'est finalement Léon Coquillard. C'est l'album qui avait été édité par le GSSA pour Une Suisse sans armée. Et ça, c'est très drôle.
Et ça va totalement avec le personnage. Dans cette exposition, qu'est-ce que vous avez voulu montrer en plus de, bien sûr, l'univers, le multifacette, toutes ces choses dont on vient de parler, mais c'est quoi pour vous les forces de l'exposition ?
Bien, c'est montrer l'éclectisme de l'auteur, effectivement sa possibilité, sa capacité à pouvoir s'adresser à plusieurs publics et pas uniquement aux enfants, et puis sa capacité surtout à raconter l'enfance avec beaucoup de naturel et de sincérité.
On se réjouit ici de justement venir découvrir parce que c'est typiquement le genre d'expo que vous proposez à chaque fois. Mais peut-être encore plus là, on va venir en famille, mais on va venir entre potes. On va venir à tous les âges, on va venir, comme on a l'habitude de le dire peut-être, de 7 à 77 ans, mais beaucoup plus en fait, bien avant et bien après.
J'espère que ce que vous dites va se réaliser, mais effectivement, c'est disons la marque de fabrique du château, c'est de pouvoir, et c'est pas forcément simple à faire, mais de réunir un assez large public avec les Schtroumpfs. On avait vraiment réuni des gens de une année et demie à pratiquement 87 ans, et puis là j'espère qu'on pourra faire de même.
Merci Philippe Duvanel.
Merci à vous.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril
sur Radio Chat. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le MAG, c'est la plus belle région au monde. Le Chablais, la Riviera et le Pays d'en Haut. Raconté par la rédaction de Radio Chablais. Et les lundis, c'est sport. Parce qu'on aime bien commencer la semaine dans l'effort. Ça rend les week-ends meilleurs. Et toute la famille va s'y mettre dès aujourd'hui. Puisque la troisième édition de la semaine valaisanne du sport est à vivre dans tout le canton jusqu'au 4 mai. Différents événements pour le grand public se déroulent un peu partout en Valais. Avec notamment les Family Games ce samedi à Sion. Mais des conférences thématiques destinées aux professionnels sont également au menu, avec notamment la présence du judoka médaillé olympique Sergueï Ashvenden. On en parle avec Xavier Borgeau et Grégoire Girillo, une des chevilles ouvrières de la semaine valaisanne du sport.
Grégoire Girillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le chef de l'office cantonal du sport en Valais, et c'est la troisième édition de la semaine valaisanne du sport. On va revenir peut-être à la genèse de ce projet. Pourquoi une semaine du sport en Valais ?
Alors, une semaine du sport, pour parler positivement du sport déjà, mettre en valeur nos sportifs, notre jeunesse, et parler des valeurs que véhicule le sport.
Et c'était important de mettre une semaine sur pied comme ça ?
Oui, donc à l'instar de la semaine du goût, la semaine contre le racisme, on parle de la semaine du sport, parce que le sport c'est très important pour le département, pour l'État, pour notre canton.
Alors comment il se porte ce sport en Valais ?
Il se porte bien, je dirais au niveau du sport de masse, nous avons la chance d'avoir 115 000 adhérents à des clubs affiliés à des fédérations, donc c'est beaucoup. Nous avons également à peu près 60% des jeunes de 5 à 20 ans membres d'un club de sport. Alors vous me direz, que font les 40% restants ? Ils font du théâtre, ils font de la fanfare, et malheureusement, un 10% ne fait rien.
Donc c'est sur ce 10% que vous tablez ?
Alors, on va essayer de les sensibiliser. Déjà, donc, dans l'idée, c'est de mettre sur pied un projet pilote pour le sport scolaire, pour préparer éventuellement une fête fédérale en 2028, mais là on va voir si on peut faire progresser ça. On n'a pas beaucoup de succès en Valais dans ce niveau-là, mais notre travail c'est de sensibiliser les écoles, les profs de sport pour dynamiser ce projet.
Alors justement, vous parlez de ce travail qui est effectué sur le terrain. Est-ce que vous travaillez main dans la main avec les écoles, avec les établissements, avec le canton pour ça?
Alors en principe, nous travaillons avec les fédérations sportives, les piliers du sport. C'est elles qui enseignent le sport. Nous, on les aide à financer certains projets, à financer des formations de moniteurs. Donc nous, c'est important que les clubs aient des moniteurs de ces sports formés, gages de qualité.
Et c'est difficile, ça?
Non, je dirais c'est... En fait, le canton répond aux besoins des fédérations. Nous n'avons jamais refusé à une fédération un cours jeunesse et sport, même si parfois c'est des cours qui coûtent assez cher, mais nous faisons l'effort pour pallier le manque dans certaines fédérations orphelines, parce que les petites fédérations, c'est compliqué de mettre sur pied des cours. Là, le vice-canton du sport les aide.
Alors, on l'a dit, c'est la troisième édition de cette semaine valaisanne du sport, sans aller dans trop de détails, mais quel sera le programme de cette semaine?
Alors, l'idée, c'était de dire... un jour, une activité sportive, ou une conférence, ou quelque chose. Donc on a commencé, bien sûr, par la demi-finale de coupe Suisse, avec le résultat que l'on connaît. Également le départ du Tour de Romandie à Saillon, qui était un beau succès. Donc ce soir, lundi, nous avons le kick-off de l'Eurofoot féminin 2025 au stade de Tourbillon. Là aussi, un beau projet pour le Valais et pour le sport féminin, que le canton encourage. Demain soir, nous avons une conférence et une démonstration sur la lutte suisse à Viège, donc là, en allemand. Donc là, nous avons la chance d'avoir un roi de la lutte suisse qui sera là. Également, on parlera, donc il y aura une démonstration d'abord avec des jeunes et des moins jeunes, puis ensuite une conférence sur comment devient-on couronné fédéral. Donc c'est clair que c'est en vue d'eux, hein. Peut-être en 2031, on aura la fête fédérale de lutte suisse à Sion ou ailleurs. Donc c'est important pour nous de préparer tout ça. Mercredi, un grand moment aussi, nous avons une démonstration sur les sports de tradition. Donc, sport de tradition, ça veut dire la boxe, ça veut dire le karaté et le judo, avec des champions qui seront là pour montrer un petit peu leur sport. Et après, pour débattre, c'est les valeurs qu'inculquent ces sports de tradition, comme on peut appeler. Jeudi, un grand moment aussi, nous avons les fameux mérites sportifs valaisans au Baladin, où nous sommes sold out pour la première fois. Le Baladin sera plein, joli. Plein comme un œuf. Donc là, c'est le but que m'avait assigné mon chef de département, de remplir le Baladin. Il sera plein avec...
Donc, objectif atteint.
Objectif atteint pour moi, mais on verra maintenant concrètement comment ça se passe. Où on aura aussi le plaisir de mettre en valeur des jeunes sportifs talentueux et des sportifs avérés qui ont fait... rayonner le Valais ailleurs dans le monde.
C'est vrai que ça, c'est important, hein, de pouvoir mettre en avant les ambassadeurs, finalement, du sport valaisan.
Bien sûr, puisqu'un un champion de sport met en valeur le canton, puisque le slogan du canton, c'est « Valais actif, Valais sportif ». Donc c'est clair, pour nous, on a le plus beau stade du monde, les Alpes. Donc là, on met en valeur, évidemment, c'est plus facile pour nous d'avoir un champion de ski qu'un champion d'haltérophilie, on est d'accord, mais on met tout en place pour que même un champion d'haltérophilie puisse devenir champion d'Europe ou ailleurs. Donc on met en valeur ces sportifs et des équipes aussi, sport handicap. Mon chef de département va attribuer un prix valeur sportive. Donc le terme valeur sportive, c'est pas seulement des résultats, c'est aussi une éthique.
C'est aussi un état d'esprit, hein,
exactement.
C'est extrêmement important.
Et puis
important,
un prix spécial à deux personnalités du sport qui sera dévoilé jeudi soir. Et samedi, très important, nous avons les fameux Family Games à Sion, où là on attend toutes les familles, tous les amis, pour venir s'essayer à 20 sports différents sur la place du C.
On sent en tout cas l'enthousiasme chez vous. Et on va peut-être rappeler que c'est sur inscription, donc les gens peuvent venir.
C'est gratuit.
C'est gratuit, donc, mais c'est sur inscription.
Bien sûr, et malheureusement, jeudi soir, c'est complet.
Et jeudi soir au Baladin, c'est complet. Grégoire Girillo, merci beaucoup pour toutes ces informations. On le rappelle, vous êtes donc le chef de l'Office cantonal du sport du Valais. Et c'est la troisième édition donc, de cette semaine sportive en Valais. On vous souhaite plein succès avec cette semaine.
Merci à vous et vive le sport.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
On passe à présent au rink hockey dans ce mag spécial sport du lundi, parce que de toute façon, les lundis, c'est sportif et c'est pas fastoche de commencer la semaine. Et là, peut-être aujourd'hui, encore un petit peu moins. Mauvaise nouvelle, le retour du Montreux HC en LNA de rink hockey ne sera malheureusement pas pour tout de suite. Thierry Nicolet, bonjour.
Bonjour Loïc. Effectivement, les joueurs de la Riviera ont été éliminés samedi par Puy au stade des demi-finales de play-off de la deuxième division nationale. Une défaite 5-4 après prolongation, entachée d'une potentielle erreur d'arbitrage sur le but décisif. Le club s'est d'ailleurs réservé le droit de déposer protêt. Réponse dans quelques jours. Mais pour le moment, c'est l'amertume qui prédomine pour le Montreux HC. Les Vaudois sont éliminés alors qu'ils ne visaient rien d'autre que la promotion. Julien Massy s'est entretenu avec l'entraîneur de l'équipe, Rui Kova.
Grégoire Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le chef de l'Office cantonal du sport.
Très amer. C'était un match qu'on était obligé de gagner. C'était un match qu'on a donné un mi-temps d'avance comme le match allait à l'équipe adversaire. Et la deuxième mi-temps, on a fait un très bon deuxième mi-temps. Cette équipe méritait plus que ça. L'équipe passe devant le résultat. Après, il prend un but à la fin. L'équipe marque un but pour égaliser le match. Après, on a créé des opportunités pour marquer, pour tuer le match. Péno, cage au vert. Et on n'arrive pas à marquer. Après, avec une erreur d'arbitre à la fin, on prend un but.
Justement, votre équipe, elle a montré du caractère. Vous êtes mené 2-0 à la mi-temps, vous êtes mené 3-1, vous revenez au score. Ça, c'est la force de votre équipe cette saison?
Je ne dirais pas la force parce que on est habitué à commencer à gagner, on est habitué à gagner le match. Je pense que mon équipe, elle a montré qu'il y a du caractère, il y a de l'envie qu'on a besoin. Parce qu'il y a des matchs comme ça, il faut avoir. Et l'équipe, elle a tout fait pour gagner le match. On a tout fait.
Il y a eu des opportunités, vous l'avez dit, en fin de rencontre, vous avez réussi à prendre de l'avance. Ne pas réussir en prolongation à garder ce petit but d'avance, c'est ça qui vous coûte le match aujourd'hui?
Oui, c'est ça qui nous coûte cette match aujourd'hui. Et à ça, il n'y a pas que le but d'avance, il y a aussi le péno qu'on rate, il y a aussi des cages au vert qu'on rate. Et voilà, et quand tu rates autant d'occasions comme un match comme ça, le match peut tomber par un côté ou l'autre. Et c'est ça que l'équipe adversaire elle a fait. Avec un petit erreur et avec la chance, ils sont arrivés devant, mais la chance, elle se cherche.
Cette série de demi-finale de play-off face à Puy, elle se solde par une défaite 3-1. À quel moment, selon vous, vous laissez échapper votre chance de remporter cette série?
Je pense que déjà, le premier match, on n'était pas à notre niveau chez eux. Après, à la maison, le moment qu'on gagne 2-1, il y a 10 minutes de la fin, on prend 3 buts d'ensuite, notre erreur aussi. Je pense que c'est après ce deuxième match qu'on n'a pas réussi à gagner chez nous, qu'on méritait gagner en plus. C'est là que je pense qu'on a perdu cette série.
Une demi-finale face à un adversaire qui géographiquement est proche, un derby, ça mettait un petit peu de piquant en plus?
Je pense que l'équipe elle a senti ça, oui. Pour moi non, parce que pour moi j'ai envie de gagner tout le match, n'importe si c'est ici à côté, c'est d'autre côté de la Suisse. Oui, les joueurs ils ont senti, je pense, un peu ça, et ça se voyait aussi pour le supporter qui était dans la tribune. Mais voilà, l'équipe, je pense aussi que les joueurs sont dépassés un peu plus, ils ont donné un peu plus. Et voilà, je pense que c'était un derby.
Maintenant, la saison est terminée. Quel bilan à chaud, vous, l'entraîneur, vous tirez de cette saison avec le Montreux Hockey Club?
Déçu, pour ne pas arriver à notre objectif. Parce que la vérité, c'est qu'après tout ce qui est arrivé depuis le début de la saison, que j'ai 9 matchs, c'est notre gardien titulaire. Je joue avec un gardien qui a 16 ans, qui a joué la plupart des championnats. Arrivé de la première 4 places, je peux être fier de mon équipe. Mais déçu parce que cette équipe méritait plus. On a montré dans la piste qu'on méritait plus qu'arrêter ici à demi-finale avant de jouer la finale.
L'objectif en début de saison, c'était la promotion. Cet objectif, il n'est pas atteint. Ça vous laisse quel sentiment?
Un peu de tristesse parce que j'ai appris l'équipe, ça fait 2 ans. Cette équipe, elle a beaucoup évolué. C'est plus les gamins que j'ai appris qu'ils avaient 17 ans et 18 ans. Ce sont des jeunes hommes qui ont de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ils ont beaucoup progressé. Ils ont joué mieux, ils sont ce que je dis, c'est déjà quelque chose. Et cette équipe, je pense qu'elle mérite plus que ça. Et c'est pour ça que je suis triste, parce que je sais que cette équipe mérite plus que l'MB.
Et pour vous, la suite, c'est de rester à la tête du Montreux Hockey pour la saison prochaine, de travailler sur une nouvelle équipe, d'apporter 2-3 petits changements. Comment vous voyez l'avenir?
Déjà, je peux rien dire. Il vient de finir la saison. Normalement, oui. Je reste comme entraîneur. L'année prochaine, je peux jouer parce que j'arrête d'être étranger aussi. Je pense, mais après, le reste de la saison, pour la saison prochaine, on va réfléchir. On va parler avec la direction. On va essayer de faire le mieux pour que ça soit mieux par l'équipe.
Le mieux, c'est d'essayer de trouver quelques éléments qui peuvent bonifier l'effectif ou d'aller avec les jeunes, de faire rentrer des jeunes dans l'effectif pour le futur.
Pas forcément chercher des gens. Je pense que les joueurs, ils progressent tous les années. Ils sont en train d'améliorer chaque année. Pas obligé d'aller chercher des joueurs. Mais s'il faut, pour améliorer l'équipe, on discutera sur ça avec la direction.
Et les objectifs resteront les mêmes, aller chercher cette place en Liga?
Toujours le même, il n'y a rien qui change.
Radio Chablais, programme de nuit.
Et pour terminer ce mag sportif du lundi, on va parler de basket. Thierry Nicolet, tu reçois le nouveau président fraîchement élu du BBC Monté Chablais.
Effectivement, Claude Petit a été plébiscité mercredi dernier lors d'une assemblée générale extraordinaire pour être le successeur de Laurent Duchoux. Il en a même profité pour présenter ses projets futurs pour le club de sa ville. Claude Petit, bonsoir.
Bonsoir.
On l'a dit, président du BBC Monté Chablais, c'est quelque chose que vous auriez voulu, que vous auriez imaginé. On le rappelle, vous êtes membre du comité depuis 2 ans, maintenant président, c'était une volonté de votre part?
Alors c'était pas forcément au départ une volonté. Quand je suis rentré il y a 2 ans au comité, effectivement, Laurent Duchoux avait déjà annoncé qu'il allait faire 4 ans, donc il faisait encore 2 saisons. Après, on se posait la question, est-ce qu'il allait quand même continuer ou pas? Et puis en début de la saison dernière, il a clairement annoncé lors de l'Assemblée Générale que c'était sa dernière saison.
Et puis là, vous vous êtes dit, ça pourrait être moi?
Alors j'ai clairement, dans les discussions que j'ai eues avec Laurent, je lui ai dit que j'étais disponible, pas forcément vraiment tout de suite intéressé, mais disponible, en disant que s'il y avait une candidature, une personne qui s'annonçait et qui voulait prendre à tout prix prendre la présidence, c'était pas une ambition démesurée de ma part, et puis je serais volontiers resté au comité.
Ouais, bah on le dit, on vous appelle maintenant président du BBC Monté Chablais. C'est quelque chose qui peut faire peur, qui peut impressionner, vous le voyez comment ça?
Non, moi je pense ça plutôt comme un défi, comme une chance aussi de pouvoir m'engager encore plus que je l'ai fait jusqu'à présent pour ce club qui est mon club depuis plus de 50 ans, puisque j'ai fait toutes mes classes de basket au BBC Monté. Et puis c'est vrai que c'est aussi une occasion pour moi de retrouver tous ces gens, les amis, les anciens du club, très vite autour du club depuis bientôt 50 ans comme moi.
Si vous deviez décrire le BBC Monté Chablais en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez justement? Vous l'avez dit, c'est toute une partie de votre vie.
Alors c'est une grande partie de ma vie, c'est vrai que ça fait 50 ans que je vis le basket d'une manière ou d'une autre. Alors d'abord comme joueur, ensuite comme spectateur, parce que c'est vrai que c'est pour moi c'est vraiment le sport que j'apprécie le plus, et quand j'ai l'occasion d'aller voir, j'ai eu l'occasion d'aller à NBA, voir des matchs aux États-Unis, je vais souvent en Italie aussi voir des matchs, donc c'est vrai que pour moi ça reste un sport spectaculaire et magnifique.
S'il y a des souvenirs comme ça dans vos plus jeunes années du BBC Monté Chablais, dans les récentes aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant?
Alors peut-être 2 souvenirs, effectivement avec mon frère jumeau, on était intégré à la première équipe dans les années 80, l'année de l'ascension, puisqu'à cette époque Piero Vanès désespérait un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs suisses qui étaient soit à l'école de cru, soit en cours de répétition, donc il n'arrivait pas à former, avoir 10 joueurs sur sa disposition pour pouvoir faire les systèmes et puis entraîner l'équipe. Et puis à l'époque, moi j'étais étudiant au collège de Saint-Maurice, et c'est vrai qu'on allait à l'époque encore au collège le samedi matin, et quand on faisait faire les déplacements à Lugano, il fallait obtenir une autorisation spéciale du pro-recteur de l'époque pour être libéré le samedi matin pour rejoindre l'équipe et puis faire le trajet jusqu'au Tessin.
Ouais, c'est une sacrée anecdote en tout cas, de quoi fatiguer quand même un peu, on imagine aussi. On a parlé de ce rapport que vous avez avec le BBC Monté Chablais, votre point de vue personnel sur ce club. Parlons du club en lui-même, sportivement. La saison 2023-2024 vient de se terminer sur une défaite en quart de finale de play-off, c'était face à Genève. Tout ça après avoir terminé 5e du classement de la saison régulière. La place du BBC Monté Chablais, c'est de finir milieu de tableau, déqualifié pour les play-offs et puis les quarts de finale, où on peut viser mieux quand même?
Alors c'est vrai qu'on peut viser mieux dans le sens, peut-être pas au niveau du classement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même certaines équipes qui, eu égard à leur budget, vont être forcément aussi devant nous dans le championnat régulier. Par contre, c'est vrai qu'on a échoué de peu cette saison par rapport à la SBL Cup, donc au niveau de la Coupe Suisse, mais aussi par rapport à la Coupe de Montreux. On a perdu à Vevey, on gagnait presque tout le match, on a perdu dans les dernières minutes, et c'est vrai que voilà, ça c'est des buts qu'on aimerait, des objectifs qu'on aimerait bien atteindre assez rapidement.
Ouais, vous parlez de ce Final Four, se joue à Montreux, salle toujours assez pleine, donc c'est vraiment c'est ce genre de match qui donne envie de participer à fond, c'est ça?
C'est ça, et puis c'est surtout le petit plus qui fait qu'une saison est mieux réussie qu'une autre. Donc je pense que le classement de 5e, alors c'est vrai que si on peut gagner encore une place et puis jouer un quart de finale à domicile d'abord plutôt que d'aller à l'extérieur, c'est forcément l'avantage du terrain, et on a vu le public qui était extraordinaire lors des 2 derniers matchs contre Genève, donc c'est vrai que cet avantage, ce 6e homme sur lequel on pourrait compter, pour nous c'est un avantage considérable.
Ouais, Monté a été loin d'être ridicule face à Genève, aussi une des grosses équipes, des gros budgets en tout cas du championnat. Ce club, vous voudriez l'emmener jusqu'où, vous?
Ben, on est là pour rêver, pour faire rêver. Donc c'est vrai que si on pouvait améliorer, comme j'ai dit, le classement, réussir peut-être, en tout cas être présent dans une des deux finales, voire les deux finales de coupe. Donc ça, c'est des objectifs qu'on peut atteindre et qui, en fonction des tirages au sort aussi, sont tout à fait réalistes. Et puis peut-être, en tout cas, consolider, confirmer le classement qu'on a obtenu cette année pour la saison prochaine.
Et ces objectifs sportifs, comment on peut se donner les moyens de les atteindre ?
Ben, c'est d'une part en essayant de faire en sorte que les actuels sponsors et contributeurs, le reste, continuent à soutenir le club. Certains sont déjà engagés sur une certaine durée. Et puis peut-être d'en trouver d'autres aussi pour essayer d'avoir un peu plus de réserve et de marge de manœuvre pour avoir un ou deux joueurs supplémentaires qui feront peut-être la différence sur le terrain.
Et on a fait le bilan de cette saison 2023-2024. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que Monté est une des équipes qui fait jouer le plus de joueurs suisses dans son effectif, qui ont le plus de minutes aussi. Ce secteur de la jeunesse, on croit comprendre que c'est assez important pour vous nous le confirmez.
Alors c'est essentiel parce que c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu une séparation au niveau de la gestion administrative des deux entités, donc le mouvement jeunesse d'une part et la première équipe. Alors ce qui pour moi ne pose pas de problème en soi. Par contre, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on ait une continuité, une suite logique entre le mouvement jeunesse, donc les U16, les U23 et puis la première équipe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, si on fait une comparaison avec d'autres clubs, on a plusieurs autres clubs de Suisse qui ont eu un mouvement jeunesse ou qui ont une deuxième équipe qui joue les ténors en Ligue Nationale B. Nous, on a une équipe de U23 qui actuellement, depuis quelques saisons, est plutôt en fond de classement. Donc c'est vrai qu'on doit améliorer ce lien avec les jeunes, puis surtout donner une perspective à tous les jeunes de club de pouvoir se dire, mais un jour, si je suis bon et si je m'entraîne et si je suis motivé, je peux jouer avec la Ligue 1.
Et ça passe par essayer de les garder, ces jeunes joueurs, justement leur donnant un objectif, un rêve, ça peut permettre de les garder dans l'effectif.
Alors c'est un des objectifs. Après, on ne pourra pas empêcher, on l'a vu, hein, on a 5 à 6 jeunes qui sont qui sont à l'étranger pour se former, pour se perfectionner. C'est vrai que si certains d'entre eux veulent vraiment faire du basket aussi leur carrière professionnelle, ben c'est clair que la Suisse est peut-être un peu à l'étroit et on n'a pas toutes les ressources non plus nécessaires, mais on a différents projets sur lesquels on travaille. Et puis le projet qui va se concrétiser déjà la prochaine saison, c'est que l'assistant coach de Ligue Nationale A sera en même temps l'entraîneur coach de U23 et on va assurer ce lien étroit entre le mouvement jeunesse et puis la première équipe.
Ah bah, y a du travail qui vous attend en tout cas, on a bien compris, Claude Potier. Pour ça, vous serez entouré d'un comité renforcé, c'est ça ?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on en perd évidemment Laurent Duchoux quitte la présidence mais également le comité, hein, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Il va forcément rester aussi proche du club et je sais que je vais pouvoir compter sur lui aussi pour la suite. Par contre, il y a 3 nouvelles personnes en principe qui vont rejoindre le comité et puis il y a aussi la mise en place de commissions, une commission technique pour soutenir notre team manager Nicolas Berolser. Il y aura une commission finance aussi pour essayer justement d'élargir le nombre de sponsors et de contributeurs et puis une commission aussi plutôt en lien avec le bénévolat, avec les animations aussi du club.
Oui, ça fait du travail, garder les jeunes, investir sur cette jeunesse. Il y a un autre club dans la région qui joue dans la même salle que vous, au Reposieux, c'est le BBC 3 Torrent. Là aussi, on peut imaginer des liens un peu plus forts entre les deux entités.
Alors, on ne va pas seulement les imaginer, on va vraiment les concrétiser, les réaliser dès la saison prochaine. J'ai déjà eu plusieurs rencontres avec Xavier Mottet, le président. On va travailler, par exemple, sur la possibilité d'un abonnement commun pour aller voir les matchs, de peut-être travailler aussi sur des journées où on aura, par exemple, les samedis, on jouera en même temps, la même journée, les deux équipes de Ligue 1. Donc voilà, il y a plein de projets comme ça, plein d'idées qui peuvent être réalisées, des activités communes pour renforcer les liens et puis pour montrer aussi, je crois, à l'ensemble du canton, à l'ensemble de la région, que le basket, c'est le sport principal de la région du Chablais.
Ouais, c'est ça, c'est que dans un petit périmètre, on a deux équipes de première division, il y a vous, il y a Trois-Torrents, il y a encore Vevey, il y a aussi Vevey qui est un peu plus loin. Vous l'avez parlé, le Chablais, le pôle cantonal de basket, ça c'est faisable. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite ?
Alors ce qu'on imagine, c'est si on arrive à fédérer toute la région autour du basket, c'est de faire aussi admettre et reconnaître par le canton que le Chablais est le pôle de compétence du basket. Et puis dans les discussions futures qu'on va avoir avec les municipalités, avec la possibilité de construire une salle dédiée au basket, pas exclusivement pour le basket, mais principalement dédiée au basket, je pense qu'à travers des sponsors, à travers une émulation de toute une région, on peut arriver à obtenir une décision politique. Et puis aussi, évidemment, un soutien cantonal avec la nouvelle loi sur le sport qui prévoit un subventionnement de l'ordre de 30% si une région est reconnue comme centre de compétences pour un sport.
Et puis si on peut se permettre de rêver un petit peu, dans combien d'années on pourrait voir ça ?
Alors, c'est un projet qui, en principe, se réalise sur un horizon de 5 à 8 ans, mais il faut le démarrer une fois, il faut que l'ensemble des entités concernées se mobilisent pour ça, et puis après ça peut aller assez vite.
Ouais, Claude Potier, on le rappelle, vous êtes le nouveau président du BBC Monté-Chablais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce mandat ?
D'avoir beaucoup de plaisir dans l'exercice de ce mandat, puis surtout faire en sorte que tous les gens qui gravitent autour du BBC Monté continuent à avoir beaucoup de plaisir à le faire.
En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite une excellente soirée.
Merci à vous, bonne soirée.
Et une excellente soirée aussi à tout le monde. Merci beaucoup.
Une excellente soirée à tout le monde, parce que la vie peut être merveilleuse lorsqu'on vit la magie du basket.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Pas des rétros, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Je me souviens pas de la dernière fois que je suis monté sur un vélo. C'était il y a très longtemps. Et pourtant, Dieu sait que la pratique de la bicyclette s'est démocratisée, notamment depuis un certain virus nommé Covid. Bref, il y a un bike park qui a ouvert il y a pas très longtemps à Fuy, et je me suis demandé c'est quoi un bike park. Je reçois pour répondre à la question Alexandre Roduit. Salut.
Salut, bonjour.
Alors déjà, merci d'être arrivé, parce que t'as eu un petit pépin. Je pensais qu'il va venir à vélo. Non, t'as eu un petit pépin avec ta voiture en arrivant ici. Donc on est très heureux que tu sois arrivé, et en un seul morceau. Allons-y, toi tu es membre du comité du bike park de Fuy.
Exactement.
Un bike park, c'est quoi ?
Un bike park, c'est un grand espace naturel qui est dédié à la pratique du VTT. Un espace avec des virages relevés, des sauts, des bosses, un wall ride, des passerelles, des modules d'équilibre. Il y a deux objectifs, c'est de se faire plaisir sur son VTT et puis aussi de s'exercer. Il y a plein de petits modules qu'on peut pratiquer pour ensuite être à l'aise sur les sentiers quand on va se faire des randos plus haut.
Donc, est-ce que c'est une espèce de parcours vita didactique du vélo, un peu un truc comme ça ?
On peut voir ça comme ça, exactement.
Avec des panneaux et tout ça ?
Il y a des panneaux qui expliquent un petit peu les règles. Et puis après, on a sur chaque module d'exercice, c'est en cours de préparation maintenant, on va mettre un petit QR code, il y a un petit piquet avec un QR code. Et puis sur ce QR code, on trouvera des tutos vidéo pour apprendre comment se positionner pour faire un petit saut, comment se positionner pour chaque type d'exercice. Et puis on peut s'exercer avec différents niveaux à chaque fois. Par exemple, quand on fait un saut, on commence niveau bleu, ensuite rouge, noir, il y a des sauts de différentes hauteurs. C'est vraiment conçu et pensé pour tous les niveaux. On peut même venir en Dresienne, on a les enfants du quartier qui sont souvent dessus. Et puis on peut aller très très loin, il y a des gars qui font des sauts énormes. Enfin, tout le monde se fait plaisir en fonction de son niveau. On peut se faire plaisir et on peut progresser, puis un peu les deux en même temps, et c'est top.
Ça, en plus avec des codes couleurs qu'on connaît bien, c'est les mêmes que les pistes de ski.
Exactement, c'est hyper facile.
Et c'est assez ouf ça, parce que c'est vrai qu'il y a une démocratisation énorme de ce sport, notamment durant la période Covid, parce qu'on s'est dit le seul moment où on peut sortir, c'est pour aller faire du vélo, allez hop, tout le monde achète un vélo. Mais ce qui est quelque chose de bien finalement, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélos dehors, et là, vous, en fait, il y a une partie didactique où on t'enseigne à comment bien te tenir pour finalement pas te blesser, parce que plus il y a de pratiquants d'une discipline, plus il y a des risques d'accident.
Exactement, il faut apprendre à le faire bien, et puis là, on a vraiment l'opportunité de s'entraîner, de progresser, chacun à son niveau. Puis quand on maîtrise bien une étape, et ben on passe un peu plus loin.
Et quelle surface il fait ce bike park ?
C'est 6000 mètres carrés.
Ça représente combien en terrain de foot, pour ainsi dire ?
Ah, oh, je sais pas.
C'est terrain de foot, un truc comme ça, non ?
Ouais,
c'est pas
peut-être.
Ça ?
Alors c'est en pente, c'est en légère pente naturelle, tout en pierre, en bois et en terre. Pas de béton, pas de goudron.
Donc, potentiellement, il va falloir, les jours de pluie, on rentrera avec tout taché de boue, comme quand on était gamin, et puis qu'on allait partir faire les chèvres à vélo dans la forêt.
Ah, c'est la joie du VTT, ça, ouais, c'est sûr.
On est d'accord. Et est-ce qu'il y a déjà... Vous l'avez ouvert il n'y a pas longtemps, c'était quand, là, l'ouverture ?
Il y a eu l'inauguration début avril, exactement.
Ouais, et ça a pris combien de temps pour le construire ?
Alors, 2 mois.
Seulement.
2 mois de travaux, c'est que des éléments naturels, la terre était principalement sur place, les cailloux aussi. Il a fallu amener un peu de bois. Mais ouais, c'est l'entreprise Trailworks qui a été au top pour ça. Merci encore et bravo à eux.
Ah, ils ont bien bossé,
ouais,
effectivement.
Ils ont été super efficaces et super pro. Et ce qui est chouette, c'est que c'est, au sein de cette entreprise, c'est que des tout ou bons descendeurs VTT.
Ah mince, ah, c'est dommage, on a joint l'utile à l'agréable.
Non, mais du coup ils font leur boss de manière à ce que ça passe bien. On risque pas, enfin, c'est pas conçu pour que ça casse au milieu, quoi. C'est vraiment fluide, c'est conçu pour rouler bien, vite et bien, et puis lentement aussi si on veut, enfin voilà, il y a vraiment pour tous les niveaux.
Et là aussi je vois un parallélisme avec par exemple les snowparks qui sont très souvent dessinés par des professionnels du freestyle, justement pour éviter d'avoir des réceptions trop dures ou bien d'avoir des longueurs trop courtes par rapport à la réception, c'est-à-dire que
il y a une sécurité en plus parce qu'il y en a d'autres qui savent ce qu'ils font, qui l'ont dessiné.
Exactement. Après, ça n'empêche pas que quand on y va, il faut savoir mesurer ses compétences et puis pas se lancer n'importe comment.
C'est important de rappeler.
Mais c'est un bikepark qui est vraiment génial pour ça, parce qu'on peut y aller tranquillement et se faire plaisir, et puis progresser, et puis s'exercer, on fait une petite boucle pour essayer de trouver le truc, et puis quand on comprend, on va un peu plus loin.
Bon, on va approfondir un petit peu justement ces petits modules dans un tout petit moment. Je te propose qu'on fasse une courte pub. J'ai choisi une chanson, on va la voir tout de suite.
Radio Chablais, programme de nuit.
Pas des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Un bike park, c'est un terrain sur lequel on peut pratiquer du VTT avec des virages relevés, des sauts, un wall ride, des bosses, dans un milieu naturel. C'est gratuit, en tout cas à Fuy, où le bike park a ouvert début avril. Et dans ce bike park, on a même des tutos qui vont apparaître très prochainement, histoire d'apprendre en toute sécurité et en fonction de notre niveau à comment se comporter avec un VTT quand on se trouve plutôt dans un milieu montagne. Alexandre Roduit, tu es membre du comité du bike park de Fuy. Comment ça se fait que cette idée, elle vous est venue de faire ces petits tutos? Je faisais tout à l'heure le simil avec les tutos qu'il y a dans les parcours Vita où on apprend à faire les choses, à faire les exercices. Ça vient d'où?
Alors, il y a vraiment l'idée que ce soit un bike park didactique qui serve pour s'entraîner, pour améliorer son niveau, pour aller plus loin ensuite sur des sentiers. C'est un bike park qui est fait aussi avec des jeunes qui sortent tout juste de l'école. L'histoire, elle est assez sympa. En fait, c'est des jeunes de Fuy qui aimaient bien faire du VTT, qui construisaient des sauts un peu sauvages dans la forêt. Ils se sont fait reprendre par la police. Et puis, c'est Olivier Brand, qui est professeur au cycle de Fuy, qui s'est dit, mais c'est bête, il y a une énergie, il a envie de faire du sport, donc on va essayer de canaliser ça. Puis à partir de là, on a monté ce projet. Donc ces jeunes-là sont maintenant, font partie intégrante de notre comité.
Ah ouais?
Et puis exactement, ouais, c'est top. Le but, c'est vraiment qu'ils ont réfléchi au projet avec nous et puis ils continuent à le porter. Il faut entretenir le bike park, il faut aller arroser les haies qui ont été plantées au bord, etc. Enfin voilà, il y a du job d'entretien, donc c'est ce comité qui fait ça. Et puis les jeunes vont aussi s'occuper de ces petits tutos, des petits tutos vidéo qu'on va retrouver sur des QR codes qui seront là où il y a tous les petits modules d'exercice.
Alors ça, je trouve déjà la démarche, elle est super, parce qu'effectivement ces jeunes, ils allaient de toute façon aller faire les bouquetins avec leur vélo par là. Ben là, on les a non seulement donné la possibilité de faire dans un endroit un peu plus sécurisé entre guillemets, mais aussi on leur a donné la possibilité de eux sécuriser ceux qui viennent après.
Exactement. Et puis les sauts qui sont faits au bike park, c'est fait par des pros, donc c'est aussi plus intéressant pour eux au niveau vraiment purement pratique du VTT. Ils se font plaisir beaucoup plus, ouais.
Donc c'est ça, donc non seulement ils se font plaisir, donc non seulement ils ont moins de risques de casser le cadran de leur vélo et de se faire mal, mais en plus de ça, ils le font avec un monstre kiff. Et puis moi je vois un petit peu la similitude avec je sais pas si tu te rappelles les circuits de vélo qu'on avait avec la police quand on était enfant, où on tournait autour d'un mini rond-point où il y avait des rues qui étaient simulées. En fait, il y a un petit peu un côté comme ça aussi au bike park de Fuy.
Oui, c'est vrai. Et quand on a lancé le projet au tout début, la police de Fuy a soutenu la démarche officiellement.
Ah ouais.
Parce qu'en pensant justement à ce côté apprentissage, sécurité, on peut s'exercer sur le bike park à bien rouler en VTT. Et je pense que ça, un entraînement sur un bike park permet moins d'accidents ensuite quand on va sur les sentiers.
Ouais. Ah oui, c'est un peu comme, je sais pas, c'est simplement prendre des cours, quoi. Forcément, on va être plus préparé. Du coup, est-ce qu'il y a des écoles qui l'utilisent, ou bien déjà celle de Fuy peut-être?
Alors c'est prévu. En tout cas, le cycle d'orientation de Fuy va venir avec les profs de sport s'exercer, c'est sûr. Et puis d'autres écoles sont les bienvenues. On a aussi plusieurs guides qui se sont annoncés, qui vont venir avec leurs clients exercer peut-être un petit passage précis pour ensuite pouvoir faire une sortie où il faut maîtriser telle ou telle manière de faire.
Ah, donc des guides de VTT qui proposent des balades en montagne.
Exactement.
Et puis qui, en fonction de la balade, ils savent qu'ils vont avoir un point un peu plus où ça va demander plus d'équilibre, ou bien ça va demander peut-être plus de frein ou plus de résistance dans les bras. Ils vont aller utiliser les tutos, les emplacements d'entraînement dédiés, enfin qui correspondent à ses besoins.
Exactement. Voilà, s'il faut maîtriser la manière de sauter, on a plusieurs sauts à plusieurs hauteurs différentes, et puis on fait plusieurs fois la boucle, on s'entraîne, on peut s'entraîner à la position, etc.
Ouais. Et si une école, par exemple, je pense aux écoles de la région ou même plus loin, mais s'il y a une école qui se dirait, moi j'aimerais bien l'utiliser, où est-ce qu'il faudrait contacter?
Alors, il faut contacter l'association Fuy Bike Park, il y a un site, fuybikepark.ch, où on retrouve aussi le lien avec l'office du tourisme de Fuy, on peut passer par là, par Fuy Tourisme.
Et toi, tu fais du vélo?
Un petit peu.
un petit peu. De ton expérience à toi, il est cool comment le bike park?
Ouais, il est trop cool. Moi, j'ai pas un grand niveau, mais je me fais quand même plaisir. Je fais pas des sauts, je m'amuse. Ouais, je m'amuse déjà. J'y vais avec mes enfants, qui sont certains andrésiennes. Ils se font plaisir aussi. Et puis, ouais, en fonction des âges, il y a vraiment pour tous les niveaux, tous les âges.
Est-ce qu'on peut dire quand même que pour pratiquer ce genre de sport, on peut rappeler que la sécurité passe avant tout, casque, genouillère, coudière, ce genre de truc?
Ah bah oui, c'est sûr qu'il faut se protéger. Ouais.
Parce qu'on est dans la nature, hein, les cailloux ça peut faire mal, la terre ça peut râper aussi et le bois pareil.
Oui, et puis il faut pas se lancer sans maîtriser ce qu'on fait. Enfin, si on va n'importe comment à fond sur un saut, c'est sûr qu'on peut se faire mal. Ouais.
Surtout qu'on va pouvoir profiter de ces tutos. Pour moi, c'est vraiment le truc de ce bike park parce que finalement aller s'amuser, tout le monde peut le faire. Mais là, on peut aller le faire intelligemment. C'est pas trop bien.
Ouais, c'est trop bien.
Bon, ben, Alexandre Audi, on est arrivé au terme de cette interview. Je te remercie vraiment d'être venu nous expliquer ce que c'est qu'un bike park, en l'occurrence celui de Fuy. Je rappelle que tu es membre du comité du bike park de Fuy. Merci infiniment et je te souhaite une excellente soirée. À bientôt.
Merci et bienvenue à tous.
Bonne nuit sur Radio Chablais. C'est chaud, c'est
chaud. Sur le grill. Oh,
une lesnoude se prépare pour le concours de Miss Suisse francophone, c'est prochainement, on va en parler avec justement la candidate qu'on a envie de soutenir et qui on espère bien sûr va gagner, Alizée Delgado, bonjour.
Bonjour Cyril.
Alors nous expliquer déjà c'est quoi brièvement le concours Miss Suisse francophone?
Alors Miss Suisse francophone c'est un concours qui existe depuis 2012, on est à la 13e édition qui réunit garçons et filles de toute la Suisse.
Donc c'est Mister et Miss.
Les deux en même temps, exactement, contrairement à d'autres pays. Et voilà, c'est un concours de beauté pour lequel la beauté physique ne représente que 30%. Le reste, c'est beaucoup de la personnalité. Et on est très actifs sur une période de 9 mois environ. Donc on est déjà bientôt à la finale.
Alors justement, la finale, c'est quand et où?
Alors, ce sera dans la région lausannoise. C'est la seule chose que j'ai le droit de vous dire. Ça sera le 30 juin.
Le 30 juin en région lausannoise. Alors, maintenant, bah justement, puisque on est bien d'accord que vous êtes une très jolie femme, mais comme ça, on ne représente que 30%, on va s'occuper des 70% restants. vous êtes qui, Alizée?
Moi, je suis en Suisse depuis près de 10 ans. J'habite à Lézin. Et je me suis présentée à ce concours complètement par hasard. Et plus j'y avance, plus ça me plaît. Donc j'ai rencontré des personnes formidables.
Mais alors pourquoi justement on s'inscrit à ce concours? Qu'est-ce qui donne envie? C'est de se challenger un petit peu?
Il y a le challenge.
C'est ça, il y a un esprit de compétition en fait quand même derrière un peu. Un peu.
Au début pas, mais ça vient gentiment par la suite. Ouais. Mais pour ma part, c'était un pur hasard de passer devant à l'instant T.
Ouais.
Et ça s'est fait comme ça, j'ai passé les présélections, puis la demi-finale, et entre 600 et 700 candidats, plus que 31 filles à ce jour.
C'est pas mal pour l'ego.
Exactement, une fois qu'on en est là, on y reste.
Gentiment. Bon alors, vous êtes active dans quoi? Déjà, c'est quoi votre métier, puis ensuite, c'est quoi vos passions?
Alors moi, je suis réceptionniste, de base, je travaille en hôtellerie à Lézin.
Ah ouais, ouais.
Et sinon, le ski, c'est pas très original.
On finit la saison, et puis après le reste de l'année, les randonnées, les balades, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous passionne?
Alors, les randonnées, beaucoup de marches, beaucoup de sport, et je crois que vivant à Lézin, il n'y a pas mieux pour
aller se balader. Il y a largement de quoi s'occuper. Alors, Loïc développera prochainement dans son émission le sujet du concours en lui-même. Vous, maintenant, alors justement, comment on se prépare pour ce concours? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Je pense que chacun a ses petits trucs et astuces. Exactement. Je dévoilerai du coup pas tous les miens ici. Mais en tout cas pour ma part, beaucoup de travail.
C'est-à-dire
Je me suis entourée.
Il faut apprendre à défiler, il faut apprendre à se mettre en avant.
Exactement. Okay. Exactement. Je fais de la danse juste à côté, à Montet. Je me suis beaucoup entraînée avec un prof au niveau du défilé. J'ai un tapis de course sur lequel je marche en talons tous les jours. C'est une excellente façon d'apprendre.
Je connais bien votre mari qu'on salue d'ailleurs. et franchement, je vais le mettre au défi de m'envoyer une vidéo de ça.
Mais je m'en occupe.
Alors, donc il y a tout un coaching. Juste rappeler, on va faire une petite pause musicale. Comment on découvre le concours? Comment on suit votre actualité?
Les réseaux sociaux, premièrement. Principal biais de communication, c'est les réseaux sociaux. Donc la page de tous les candidats et la page page de Mister et Miss Francophone, ouais, le site internet. J'en profite pour rappeler que les inscriptions 2025 sont ouvertes.
Ok.
Et ou les réseaux sociaux.
Bon, alors, on va aller suivre tout ça. Vous restez bien avec nous, Alizé Delgado, future Miss Suisse française. C'est chaud, c'est
chaud. Sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud, sur le grill.
Toujours avec nous, Alizé Delgado, candidate Miss Suisse francophone. Le concours, ce sera le 30 juin prochain en région lausannoise. On peut suivre le concours de Miss Suisse francophone, bien sûr, sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Alizé, on a parlé de préparation tout à l'heure. Forcément, je me suis bien marré quand j'entends dire que vous vous entraînez en marchant avec des talons sur un tapis de course. Ah, je trouve le concept génial et je me réjouis de voir la vidéo. Mais plus sérieusement que ça, vous avez dit, hein, c'est de la danse, il y a de la prépa. Alors, ça peut prêter à sourire, forcément,
oui.
Mais en même temps, ben non, parce qu'il faut être parfaite, et on l'a dit en début d'émission tout à l'heure, en début d'interview, c'est un vrai concours, il faut prendre ça au sérieux, on ne gagne pas juste en y arrivant tranquille, les pieds en l'air. Quoi.
Je ne pense pas non plus qu'aucune des 31 filles qui restent, aussi jolie soit-elle, soit née avec une paire de talons. C'est comme tout, il y a tout qui s'apprend, il y a tout qui se travaille, en tout cas pour ma part,
ouais.
La force du travail m'a amené beaucoup de choses, il y avait beaucoup de qualités que je n'avais pas, et que j'ai dû aller chercher par le travail en m'entourant de coachs, de profs, d'aides.
En développant justement tout ça. Puis c'est intéressant parce que ça permet aussi d'apprendre à se connaître soi-même. C'est un challenge personnel. Donc ça veut dire qu'on se met un peu, quoi qu'il arrive, dans le dur. On doit se forcer à faire certaines choses, travailler en fait, bêtement.
Exactement, et ça demande du courage. Mais on ne parle pas assez de ce que ça donne en retour. Ça demande du courage, alors, mais ça donne énormément de force. Alors bien sûr, un peu de confiance en soi.
Ce qui n'est pas plus mal.
Ce qui est toujours le bienvenu, suivant la personnalité de chacun, mais en tout cas c'est toujours le bienvenu. Des relations, des liens d'amitié qui se tissent absolument extraordinaires, parce qu'on est tous dans une aventure qui dure 9 mois finalement, avec lesquelles on va partager... des choses hyper
C'est ça, passer du temps et autres, ouais.
Passer beaucoup de temps. Il y a énormément de shooting, de défilés, de promo tours. On est partout dans la région. On va jusqu'à Berne, Fribourg, le canton de Neuchâtel.
Que ce soit les hommes ou les femmes, hein, vous êtes tous et tous ensemble et au taquet.
Exactement. Alors le concours, il réunit les filles et les garçons,
ouais,
contrairement à d'autres pays. Et nouveauté de cette 13e édition qui va se passer à la finale, vous aurez du coup la chance d'avoir Miss et Mister Suisse francophone 2024, mais également, et ça c'est une super nouvelle, une représentante de chaque canton. Donc vous aurez le retour de Miss Canton de Vaud, Miss Valais, Miss Neuchâtel. Ça c'est la grande nouveauté de cette année. Et c'est une très très bonne nouvelle, c'est très fédérateur.
Puis alors même pour vous aussi justement peut-être d'aller découvrir des endroits, de se mettre dans le dur aussi par rapport à des lieux. Il faut se mettre en avant, il faut avoir envie de se mettre en scène entre guillemets. Là aussi il y a un travail de confiance en soi, un travail de mise en avant.
Exactement, ça demande beaucoup de courage. Il y a toujours, en tout cas pour ma part, je ne vais pas mentir, 4-5 bonnes minutes de bon stress juste avant. Mais une fois que les événements sont partis, généralement on est pris dans l'ambiance et c'est assez chouette. Le concours est bien accueilli dans la majorité des cas. Les gens sont contents de nous voir, sont contents qu'on soit là. Il y a aussi beaucoup de familles qui viennent nous soutenir, donc les parents, les copains, les amis, et ça c'est hyper chouette. Donc finalement, non, il y a beaucoup plus d'agréable que de... Le stress est vite oublié une fois qu'on est dedans.
Alors justement, ce sera ma dernière question. Au niveau familial, au niveau entourage, comment les gens, ils appréhendent ça? Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est quoi les retours?
En tout cas pour ma part, que du positif. Des copines qui sont à fond sur les réseaux sociaux.
Qui partagent, qui soutiennent.
Oui, des parents
qui sont fiers.
Sont tout fiers, oui.
Bah ouais,
ouais.
Forcément.
Les photos. Non, c'est très chouette. Puis c'est très fédérateur. Même moi, j'habite Lézin, qui est un petit village de station.
Ouais.
Les gens sont là, ils sont tout contents. J'ai beaucoup de soutien. Donc ça, c'est hyper chouette aussi.
C'est une belle mise en avant, alors aussi pour vous, mais de pouvoir parler de sa région, comme vous l'avez fait, hein, et justement, et puis de se dire, regardez, moi je viens de ce coin de pays, c'est hyper chouette.
Oui, si j'ai l'occasion d'en parler,
là, vous en profitez aussi.
À travers ce concours, j'en profite aussi, oui, ça c'est sûr.
Bon alors, on rappelle, on vous suit, Miss Suisse francophone, le concours, sur les réseaux, sur le site internet, le résultat, quand vous gagnerez, ce sera le 30 juin prochain à Lausanne, on l'annoncera en tout cas, et puis on rappelle aussi, vous serez bientôt en émission avec Loïc, justement aussi, pour présenter le concours en lui-même. Merci Alizé.
Merci à vous, mais si je gagne, je reviens.
Eh ben, on espère avec la petite écharpe et tout.
Exactement.
Merci beaucoup. Plein succès, à bientôt.
Sur le grill. Oh.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous. C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. Eh, on a trouvé un endroit à l'abri du vent. Je savais pas que ça existait sur cette commune, parce qu'on est à Doréna, c'est un peu le pays des éoliennes. Yasmine Ballet, ma très chère guide, bonjour.
Bonjour.
Bon, pour cette première capsule, je voulais que tu me parles d'un endroit particulier. Alors déjà, ici, on est à côté du téléphérique. Il y a un énorme bloc erratique qui nous cache du vent, c'est ça?
Exactement, on est dans un petit coin privilégié au pied du téléphérique, sous les châtaigniers qui sont pas encore trop en fleurs, à l'abri du vent, et on est tip-top. En plus, il fait beau.
En plus, il fait beau, c'est vrai, ces derniers jours, c'était pas le cas. Bon, tu voulais me parler d'un endroit qui se trouve sur les hauteurs de la commune de Doréna, du côté de Champé ou Alès?
Alors, du côté de Champé, hein, je vais juste resituer au niveau géographique. Donc, il y a le village de Doréna qui est en plaine, le hameau d'Alès vers les 900 mètres et le hameau de Champé qui est vers les 1100 mètres. Alors, la curiosité touristique, on appelle ça le Creux-à-Loup. Ou le cralou, comment ça vient du patois.
C'est un... C'était comment en patois?
On disait le cralo.
Nous,
on dit encore le cralo, ouais.
C'est beau.
Ouais, alors.
C'est beau le patois. Personnellement, j'adore. Et qu'est-ce que ça veut dire le cralo?
Alors, c'est le trou à l'ours. C'est un ancien piège à ours qui a été fait au 18e siècle, à peu près. Donc, il est vraiment encore bien fait. On le voit bien quand on se balade dans les folataires. C'est une fosse circulaire qui a été empierrée. Donc il y a vraiment un trou avec une pierre et tout, assez grand, je pense à peu près 2 mètres de diamètre en tout cas. Et puis avant, ils mettaient une chèvre, un animal, ils recouvraient de branchages, et puis c'est ainsi qu'ils attrapaient l'ours, qui tombait dedans, puis qui ne pouvait pas remonter, et puis ils le tuaient, quoi. Voilà, ils se défendaient.
Oui, c'était une autre époque, on est d'accord aussi. Déjà, il y avait des ours.
Voilà, il y avait des ours, et puis bah, c'était assez, probablement assez dangereux pour la population, et ils en avaient peur, donc ils ont senti ce besoin de piéger ces ours. Donc cette curiosité, on la trouve au début d'une magnifique balade à travers les folataires. Je dirais que c'est une balade que j'apprécie parce qu'elle commence tranquillement, on peut se parquer à Doréna, monter en téléphérique, donc ça commence assez gentiment. Là, on a une vue magnifique sur la vallée, jusque quand il fait beau, on voit le lac Léman. Et puis après, gentiment, c'est une balade qui va descendre à travers la réserve nationale des folataires jusqu'à Branson.
Ah ouais, c'est juste, il y a une réserve nationale ici.
Voilà, une réserve fédérale des folataires. Elle est aussi inscrite, les folataires et le Mont-Rosel, c'est inscrit à l'inventaire fédéral des paysages. C'est quelque chose de précieux. C'est un endroit assez particulier. Les folataires, c'est dans cette réserve, on trouve... Je dirais a priori plus de 200 espèces de faune, de fleurs qu'il n'y a pas ailleurs. Des endroits, je dirais, au niveau des espèces animales, on a des oiseaux qui sont vraiment en danger dans toute l'Europe, qu'on retrouve là. On peut penser au torcol fourmillé, au traquet tarier. Actuellement, on a un hibou grand-duc qui y niche.
Oh.
Y a quelques observateurs qui sont là, qui l'observent un petit peu, qui observent le nid et tout. Et puis, si on a de la chance, ben, on peut voir le vol du gypaète qui vient d'Herborance.
Oh, et je crois même que il y a des gens qui ont découvert une nouvelle espèce de plante ici il n'y a pas longtemps.
Alors, effectivement, au niveau des plantes aussi, je pense qu'il y a maintenant le fameux bulbocode qui fleurit dès janvier, qui est bien connu. On a aussi plein d'autres fleurs. C'est un endroit où on a beaucoup de balades de la part de gens qui apprécient les balades. On a aussi des chercheurs, notamment des chercheurs de l'EPFZ, qui viennent et qui étudient. Et il y a quelques années en arrière, ils ont découvert encore une plante, c'est le petit pois de Fuilly. Et je ne sais pas s'il était là déjà avant. En tout cas, il a été répertorié il y a seulement une dizaine d'années.
Waouh, le petit pois de Fuilly. Ah, dommage, non, ça aurait dû être celui de Doréna.
Ouais, effectivement, mais on ne sait pas. Hein. Ils sont toujours là, ils étudient, donc peut-être qu'il y aura une plante de Doréna spéciale.
Doréna, toute la semaine au programme du Nombril du Monde.
Radio Chablais.
Le Nombril du Monde. Radio Chablais. programme de nuit.
Un goût amer signale un végétal toxique. Et comme les légumes sont un peu amers, eh ben, on les rejette. Ce serait un réflexe inconscient pour éviter de s'empoisonner. Donc, c'est pas que le petit dernier vous enquiquinez, c'est juste un réflexe inconscient, qu'on se le dise. Le chocolat, lui, c'est un aliment de grande qualité malgré tout, bourré de minéraux. Ça stimule le cerveau, ça chasse les idées noires. À condition, hein, on est d'accord, d'en manger peu sous forme de chocolat noir. Car le chocolat au lait, lui, contient beaucoup de sucre et de graisse. Mais c'est celui que préfèrent les enfants, et Tuck, qui en avalent 15 grammes par jour en moyenne, soit 6 kilos par année, et qui adore le chocolat. Notre corps, en fait, raffole du sucre, considéré comme une récompense. Et pour le gras, il y a sans doute là les vestiges d'un réflexe très ancien, celui de stocker de la graisse en prévision de périodes difficiles, de périodes de famine. Bref, en résumé, nous fonctionnons encore comme des hommes préhistoriques. Alors que nous ne risquons pas depuis belle lurette.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le geste du jour.
Donc un peu de piment.
Ah oui, mais quel bon geste !
Sur Radio Chablais.
On va parler de détox ou de tri, si vous voulez. Et je me demande parfois, franchement, s'il n'y a pas une génération spontanée de stylos et autres crayons qui se clonent, c'est pas possible autrement. On a des dizaines de crayons tout genre, on les trouve un peu partout dans la maison, là rien de nouveau, dans les sacs, dans la voiture. Et compte de l'histoire, c'est que à chaque fois que tu as besoin d'un crayon, ou que tu cherches un crayon, tu le trouves, mais alors, ou tu le trouves pas, ça c'est pire, des fois tu cherches partout, tu trouves pas, mais alors tu le trouves et il marche pas. T'as beau l'essayer, il marche pas. Alors, je suis certaine que ça vous est déjà arrivé, on est bien d'accord. C'est énervant, ça nous énerve. Ça sert à rien de s'énerver, c'est pas très serein, c'est pas efficace. Mais ça va être fini pour vous, parce qu'un crayon qui ne marche pas, au lieu de le mettre à la poubelle souvent, qu'est-ce qu'on fait? On le remet là où on l'a trouvé, ou alors on le pose ailleurs, ce qui est totalement débile, vous êtes d'accord? Donc, ça peut plus durer. Donc, on va faire une détox. Donc, la prochaine fois que vous prenez un stylo qui ne fonctionne pas, qui a l'extrémité mâchée, ou alors qui est tout baveux, eh ben, vous vous dites, je le mets immédiatement à la poubelle. C'est une sorte d'opération coup de poing, si vous voulez, une détox de stylos et de crayons, et recrutez vos enfants pour vous aider à la chasse aux crayons. Déjà, c'est amusant, et puis en plus, ça va peut-être les sensibiliser aussi à les ranger et en prendre soin. Alors, ce que vous faites, petit 1, c'est vous collectez, vous traquez tous les crayons dans toute la maison et vous les déposez tous ensemble dans un sac ou dans une boîte ou sur la table. Ensuite, vous purgez, c'est-à-dire que vous essayez chaque crayon sur un bout de papier ou sur une enveloppe récupérée où vous voulez et vous triez. Alors, vous jetez, vous éliminez, mais sans état d'âme, hein. Ceux qui fonctionnent pas, si vous en avez à triple, vous arrivez pas à le tailler. Bref, tous ceux qui ne font pas de, qui vous plaisent pas. Allez hop, via! Vous regroupez ensuite les crayons de même couleur et de même nature, feutre, crayons de couleur, stylo et tout. Et après, vous organisez, vous déposez un tas de crayons dans différents endroits que vous estimez être judicieux. Par exemple, un crayon dans un sac à main, dans la voiture, à la cuisine, à un salon, mais pas 10 000. Et puis après, vous créez une boîte ou des trousses avec des crayons que pour les enfants. Ou alors une trousse personnelle. Et vous en avez aussi en réserve, parce que le jour où celui que vous avez laissé à la cuisine ne fonctionne plus, vous le jetez et vous en prenez un nouveau. Alors ça paraît un peu cucu ce que je vous dis, je suis d'accord. Mais franchement, soyez honnête, vous êtes d'accord que ça vous est déjà arrivé. Vous cherchez, vous trouvez pas, vous cherchez, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, vous allez être beaucoup plus serein. Et si on vous donne un stylo promotionnel, résistez à la tentation, parce que vous allez le laisser traîner, puis vous serez reparti dans la sphère infernale. Je ne sais pas vous, mais j'ai le sentiment qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez voir le crayon ou le stylo d'une autre manière.
Le geste du jour.
Donc un peu de piment.
Ah oui, mais quel bon geste !
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Voici les titres du journal. Pour les 10 ans de la caserne de Vouvry, l'association des communes du Haut-Lac a ouvert ses portes ce week-end au programme Initiation aux activités des services de sécurité de la région. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'Unihockey sur la Riviera. Hier à Saint-Léger, l'UHC Jauny et les Raptors de Vevey ont célébré leur fusion, l'occasion de dévoiler l'identité visuelle du nouveau club. Dorian Godon a remporté la dernière étape du Tour de Romandie au sprint hier, mais c'est l'Espagnol Carlos Rodriguez qui s'impose au classement général, très disputé tout au long de cette édition.
Pour la météo, un temps moins en partie ensoleillé pour ce lundi. Demain, un temps assez ensoleillé avant le retour dans le courant de l'après-midi des nuages. À noter le retour du feu demain. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Guillaume Abbé. Bonjour Guillaume.
Bonjour Axel, bonjour tout le monde. Expérience de la voiture tonneau, simulateur de tir au pistolet, extinction de feu avec les jeunes sapeurs-pompiers ou encore sauvetage en hauteur. Voilà des exemples d'initiations proposées à la population du Haut-Lac ce week-end à l'occasion des 10 ans de la caserne de Vouvry. L'association des communes du Haut-Lac, la CHL, a ouvert ses portes aux intéressés le temps d'une journée. L'occasion de découvrir les activités des services de sécurité de l'association. Les explications du président de la commission sécurité de l'Assemblée des délégués de la CHL, Jacques Mété, accompagné par le président Gingolet, Damien Roch.
C'est une opportunité unique pour la population de voir le travail des gens qui assurent la sécurité 24 heures sur 24 de la commune. Donc ils pourront voir le matériel, ils pourront assister à des démonstrations. L'état-major de conduite va montrer les points de réunion d'urgence, c'est-à-dire c'est en cas de catastrophe comment la population doit se comporter. Également, il y a des ateliers sur la prévention incendie, donc on peut apprendre à éteindre une friteuse aujourd'hui par exemple. Bien sûr pour les enfants, c'est un peu animé, château, etc. Et il y a la partie samaritain, parce que les samaritains, on les oublie, mais c'est quand même un maillon important dans la chaîne d'intervention, puis aussi dans la sensibilisation aux gestes de premier secours. Donc.
Il y a aussi la PIHL, la police intercommunale du Haut-Lac, qui a aussi une voiture tonneau, on peut tester une voiture tonneau.
Ouais, j'allais le dire, c'est le premier truc qui a marqué mon attention quand je suis arrivée, une voiture un peu dans les airs. Le concept, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est de pouvoir tester l'impression qu'on a quand on a un accident. Et ouais, c'est assez impressionnant.
L'idée, c'est de montrer aux gens que s'ils n'ont pas la ceinture, ben voilà, quel est l'effet dans la voiture.
Damien Roch et Jacques Mété étaient au micro de Julie Gay. La police intercommunale, le centre de secours et incendie, les Samaritains ainsi que l'état-major de conduite régionale du Haut-Lac qui composaient les divers services présents samedi à Vouvry. L'homme qui avait dénoncé des cas de maltraitance au sein d'un EMS à Saxon a écopé de 50 prisons fermes. Le tribunal de première instance du 3e arrondissement pour les districts de Martigny et de Saint-Maurice l'a reconnu coupable de plus d'une dizaine d'infractions, notamment d'escroquerie, de calomnie aggravée et de faux dans les titres et dans les certificats. Le trentenaire qui s'était prétendu infirmier ne pourra plus non plus exercer une activité professionnelle ou non impliquant des contacts réguliers avec des personnes particulièrement vulnérables pour une durée de 10 ans. Pour rappel, l'affaire débute en 2020 avec un témoignage dans l'émission mise au point de la RTS. L'accusé y dénonce des cas de maltraitance à l'encontre des résidents d'un EMS à Saxon dans lequel il avait été employé comme infirmier. En juillet 2023, après enquête, l'EMS est blanchi par la justice et l'administration cantonale. Le nombre de cas de maltraitance infantile constatés dans les cliniques pédiatriques suisses s'est élevé à 2097 en 2023, un niveau jamais atteint auparavant. Cette augmentation de 13% sur un an s'explique par l'amélioration du recensement.
Que faire des statues ou autres œuvres provenant de notre héritage colonial ?
Une question que se posent aujourd'hui de nombreuses communes. Confrontée à une peinture murale raciste dans une école, la ville de Berne l'a déplacée dans son musée d'histoire. Elle a donné carte blanche à un collectif de militants pour gérer le projet. Après de nombreuses oppositions, des difficultés techniques et financières, le résultat est là. L'exposition Résistance, comment aborder le racisme à Berne a ouvert ses portes jeudi dernier. Le collectif tenait à placer cet objet colonial au musée plutôt que de le contextualiser sur place. Les explications d'Isabelle Barros, historienne et membre du collectif.
Il était déjà contesté à plusieurs reprises, déjà aux années 80 par exemple. Il y en a des parents d'enfants, des enseignantes et enseignants à l'école qui ont remis en question la présence de cet objet dans l'école. Donc c'est une école primaire. Ils ont essayé de trouver des initiatives sur place, mais sans aucun succès. Donc par exemple, à un moment donné, ils ont essayé de coller sur la lettre N, un Nashorn, qui est un rhinocéros, pour essayer un petit peu de cacher l'image stéréotypée d'une personne noire. Il y en a eu des expériences, et finalement, ça n'a pas abouti à quelque chose de concret. C'est pas aux enfants et au corps enseignant de faire cette expérience, de contextualiser, d'avoir cette responsabilité. C'est la responsabilité de la ville, c'est la responsabilité de toute la société.
Des propos recueillis par Marie Vieumier. L'exposition se replonge dans les conditions de réalisation de cette peinture coloniale, mais elle questionne aussi notre rapport à l'histoire et au racisme, à voir jusqu'en juin 2025 au musée d'histoire de Berne. À l'étranger, le comité international de la Croix-Rouge ne remplacera pas l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Le CICR a déjà suffisamment à faire sans chercher à se substituer à d'autres organisations, affirme aujourd'hui son directeur Pierre Krenbull. Les efforts pour parvenir à une trêve dans cette guerre entre Israël et le Hamas à Gaza semble avoir progressé hier. Le mouvement palestinien affirme n'avoir relevé aucun problème majeur quant à une dernière proposition de cesser le feu. À une quinzaine de jours de la course à la Palme d'Or, le 77e Festival de Cannes a annoncé aujourd'hui la composition de son jury, dont fait partie Omar Sy. Le festival, qui se tiendra du 14 au 25 mai, a choisi 4 hommes et 4 femmes qui officieront sous la présidence de la réalisatrice Greta Gerwig, figure du cinéma d'auteur américain devenue reine du box-office avec Barbie l'an dernier. En sport, en football, invaincu durant ce mois d'avril en première ligue, le FC Monté s'est offert une manita hier. Les Chablaisiens se sont imposés 5-0 sur la pelouse de Port-Alban Glétran. Grâce à ce succès, les joueurs de Lucien Desnervaux grimpent au 12e rang du classement.